Donc on avait commencé il y a 2 mois de ça, hein, avec un monsieur qui m'avait appelé au téléphone, hein, et qui était témoin de Jéhovah. Donc je vous avais expliqué, je reprends vraiment mais super super vite, hein, le pourquoi du mot Jéhovah et en quoi c'était une erreur. Donc voilà. Deuxième partie, le mois dernier, on a vu qu'à l'époque biblique et encore à notre époque, hein, même si on le fait moins dans cette intention-là, tous les noms ont une signification. On a vu les noms, que ce soit les noms de personnes, les noms de lieux, même les noms de cailloux des fois, hein. On a donné des noms parce qu'il y avait une bonne raison, parce que ça voulait dire quelque chose, parce que ça rappelait un événement qui s'était passé. Et donc on avait vu essentiellement l'histoire de Joseph, en fait, enfin de Jacob, pardon, et de tous les enfants qu'il avait eus, et la bataille interposée qu'il y avait dans les noms des enfants. Pour dire, ah bah, c'est moi qui vaincrai, et hop, on l'appelle comme ça, c'est ma joie, hop, on l'appelle comme ça, et voilà, tous les enfants ont eu un nom qui voulait dire quelque chose. Et on a vu juste après que quand Jacob part avec toute sa petite troupe, eh ben, il passe par des séries de lieux, et là aussi, il donne un nom à chaque fois qui veut dire quelque chose. Donc voilà. Et le titre d'aujourd'hui, donc il est affiché là, c'est Les noms de Dieu. Alors, donc j'espère que vous aimez ça, sinon le mois prochain, vous pouvez rester chez vous, parce qu'il y aura une quatrième fois, j'ai pas fini. C'est inépuisable. Alors, j'espère pas faire un truc à la Dallas ou Côte Ouest, hein, en faire 2 millions d'épisodes, mais voilà, il y aura au moins un quatrième épisode parce que j'ai toujours pas fini et que moi j'ai trouvé ça intéressant. Donc j'espère que vous aussi. Donc contrairement à ce que peuvent nous dire les témoins de Jéhovah, puisque tout est parti d'eux, je devrais les remercier. Dieu a des multiples noms en fait. Il n'a pas juste un seul nom et attention, faut absolument utiliser celui-là, sinon on se plante complètement. Il a tout un tas de noms et chaque nom, il exprime une qualité de Dieu, une caractéristique de Dieu. Alors, on va en prendre quelques-uns, on va pas en prendre 50 parce que on n'est pas là juste pour faire une énumération sans fin. Après, on pourrait faire un message sur chaque nom, hein. Là, je vais vous tenir quelques années comme ça, mais c'est pas le but. C'est pas le but. Et il y a quelque chose que j'aime pas, c'est faire un message qui soit juste, on va dire quelque part, juste de la connaissance en fait. Parce que si on est là juste pour lire ce que vous pourriez lire dans le dictionnaire ou dans un document biblique, bah, quelque part, vous n'avez pas besoin de moi pour le faire, vous pouvez le lire vous-même, hein. Et vous allez dire à la fin, ah bah oui, c'était bien. Bah oui, forcément, il n'y a pas d'engagement de votre part, il n'y a pas d'engagement de ma part. Donc si on donne un message, c'est aussi pour chercher après ce qui nous concerne en fait. Donc voilà, on va faire une petite partie, donc nécessairement un peu connaissance. Mais par contre, à la fin, je tiens absolument à donner une petite partie réflexion quand même et qu'on réfléchisse quelle incidence ça a sur nous. Parce que je vous dis, sinon, ça n'a aucun intérêt de faire ça ici. Donc le principal nom, alors en ça, ils n'ont pas complètement tort, hein, les témoins de Jéhovah, c'est ce fameux tétragramme, donc on a vu en long, en large, en travers la première fois que j'en ai parlé, qui est le nom donné par Dieu, et essentiellement depuis Moïse en fait. C'est au niveau de Moïse, à ce moment-là, qu'on comprend l'idée de Dieu et qui se révèle sous ce nom-là. Alors, ils n'ont pas tort, les témoins de Jéhovah, dans le sens où c'est le nom le plus utilisé. Donc, ça se prononçait, on l'a vu, probablement Yahvé ou Yahweh, même si on n'est pas sûr et qu'on ne retrouvera jamais de toute façon. Mais voilà, la plupart des linguistes, la plupart des gens qui étudient la Bible sont assez d'accord sur cette prononciation-là, ou quelque chose qui ressemble à ça en tout cas. On retrouve ça plus de 6 500 fois dans l'Ancien Testament, donc c'est le nom le plus utilisé dans l'Ancien Testament. Alors pourquoi je dis l'Ancien? Parce que dans le Nouveau c'est en grec, hein, et donc on n'a plus les mêmes noms de Dieu en fait. Et il est traduit en général par l'éternel. Donc c'est la notion de je suis tout simplement, j'existe, je suis l'existant, je suis celui qui suit. Donc l'idée de ce nom-là, c'est ce qu'on retrouve dans Exode 3, on l'avait lu la fois dernière, hein. Passage un peu long aux vidéos proches, mais donc Moïse qui dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Donc là, il dit, je suis YHWH. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Donc on voit bien dans ce passage-là l'idée de ces fameuses 4 lettres, de ce qu'on a traduit nous par l'éternel. Ce qui est important, c'est que quand Dieu il se révèle à quelqu'un avec un nom, Il y a une signification au nom, on l'a vu hein, la fois dernière. Et donc, il ne se révèle pas avec n'importe quel nom, à n'importe quel moment, en fait. Et je pense que c'est une des choses qu'on peut retenir des noms de Dieu, c'est que là, il parle à Moïse, et quelque part, Moïse, il pourrait débarquer et dire, ben voilà, je connais Dieu. Et puis les enfants d'Israël, ben, tu le connais de où? Et ce qui était important pour Moïse quand il est venu, parce que finalement, il allait prendre la tête du peuple hein, pour le sortir du pays d'Égypte, c'était d'avoir une espèce d'assurance en fait, de garantie qu'il venait pas au nom de n'importe quel Dieu. Et donc Dieu, il se révèle à lui comme l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et ça percute dans la tête du peuple d'Israël. Ils sont bien les enfants d'Abraham, c'est leur fierté d'être les enfants d'Abraham, d'être les 12 tribus d'Israël. Et donc quand Dieu, il se révèle à Moïse comme étant l'Éternel, celui qui est de toutes les générations, c'est un moment important en fait. C'est pour ça qu'il emploie aussi ce nom-là à ce moment-là. Il aurait pu dire je suis Dieu tout-puissant à ce moment-là aussi, mais c'était presque trop tôt. Donc là, il se révèle comme l'Éternel et c'est important parce que ça donne une espèce de, alors je retrouve plus le mot, mais voilà, d'assurance ou de confiance à Moïse qui va pas se pointer avec juste un Dieu que personne sait de qui il parle en fait. Quand il parle de l'Éternel qui est le Dieu des ancêtres, de leurs ancêtres, ça leur parle et c'était important. Alors plutôt que donc voilà de dire toujours le tétragramme, hein, les 4 lettres, je vais toujours utiliser Yahvé ou Yahweh, hein, ça sera voilà. Donc il y a des variations de Yahvé ou Yahweh. Donc on trouve des variations. J'en ai mis quelques-unes là, mais on peut en trouver par dizaines en fait, hein, quasiment dans la Bible. Il y a toujours un petit qualificatif en fait. Alors juste quelques-unes, on en a déjà cité ce matin. Hein. Yahvé Jiré, l'Éternel pourvoira. Alors, je ne mets pas les versets, on en aura d'autres après et je mettrai d'autres versets. Mais sinon, on va passer 1 heure juste à voir des versets où c'est bah, le nom qui est indiqué là, en fait. Hein. Il y avait Rapha, l'Éternel qui te guérit. Il y avait Nissi, l'Éternel ma bannière. Il y avait Ra, on connaît moins hein, celui-là, l'Éternel mon berger, mais c'est celui qu'on retrouve dans le psaume 23. Hein. Il y avait Shalom, ça on connaît bien, l'Éternel paix. Il y avait Tsidkenu. L'Éternel, notre justice, se révèle à Jérémie sous ce nom-là. Et il y avait Elohim, l'Éternel Dieu, qu'on trouve dans Genèse 2. Donc, dit, il y en a plein, ça n'a pas d'intérêt de les citer et de faire une longue liste qui fasse 20 diapos. Mais voilà, c'est juste à retenir qu'il y a des variations et qui donnent une petite idée supplémentaire de qui est Dieu, en fait, de quoi il est capable, de ce qu'il fait. Donc, en tout cas. Le point important, c'est que Yahvé, c'est le nom le plus utilisé dans tout l'Ancien Testament. Donc ça, c'est le premier nom sous lequel se révèle Dieu. Alors premier au sens majoritaire, hein, on va pas. Donc le premier au sens chronologique, c'est celui qu'on retrouve dans la Genèse, en fait. Hein. Non, c'est pas celui-là. Voilà, je me suis déjà mélangé. Non. Alors le deuxième majoritaire, je les ai pris dans l'ordre de leur fréquence. Le deuxième, c'est El. Tout court. Donc El, c'est le premier, le plus utilisé après Yahvé en fait. Alors il est traduit tout simplement par Dieu. Alors pourquoi? Parce qu'en fait c'était un nom commun. À l'époque d'Israël, chez les Cananéens, chez les Chaldéens, chez d'autres peuples, on utilisait ce mot-là ou des variations dans les langues des peuples, mais voilà, ça tournait autour de El pour désigner les divinités. Donc c'était un nom commun, comme nous on peut écrire Dieu avec un petit D en fait, hein. Donc c'était Dieu. Et la différence, c'est qu'ils n'ont pas fait comme les autres peuples, en fait. Ça ne pouvait pas être possible puisqu'ils n'avaient pas le même Dieu que les autres peuples. Donc ce qu'on retrouve dans la Bible, c'est jamais El tout seul. On le retrouve toujours avec un qualificatif derrière. Donc comme on a vu Yahvé tout à l'heure, avec Yahvé Rapha, Yahvé Ra, Yahvé, voilà, on retrouve El quelque chose à chaque fois avec ces petits qualificatifs derrière. Donc ce n'est pas le El commun, en fait. C'est pas le L de tous les peuples autour, le même Dieu avec un petit D. C'est le grand Dieu, et donc il y a toujours quelque chose pour montrer que c'est pas le même. Donc ça c'est important. Donc on retrouve El Shaddai, hein, on le connaît bien, on le chante. El Elyon, El Olam, El Kana ou El Haï. Alors j'en ai pris quelques-uns. Là on va prendre quelques versets, hein, juste pour vous montrer que je raconte pas n'importe quoi depuis le début, mais que voilà, on pense que quand on lit la parole. C'est ça qu'il y a derrière, en fait. Parce que quand c'est traduit, bah, ça rend pas toujours exactement la même chose. Donc El Shaddai, ça on le connaît, hein, Dieu Tout-Puissant, il se révèle à ce nom-là, à Abraham, en fait, sous ce nom-là. Et on retrouve ça dans Genèse chapitre 17, versets 1 et 2. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Donc quand il dit ça, je suis El Shaddai. Alors c'est pareil, sauf erreur de ma part, il n'y a pas les le, un, une en hébreu en fait. Donc nous en français, je suis le Dieu ou un Dieu, voilà. Mais en fait, je suis Dieu Tout-Puissant. C'est comme ça que ça se lit dans les mots hébreux. Et donc, c'est son nom, c'est comme ça qu'il se révèle à Abraham. Et il dit, marche devant ma face et sois intègre, j'établirai mon alliance entre moi et toi, je te multiplierai à l'infini. Et donc, on réagit pas hein, quand on voit Dieu Tout-Puissant, mais c'est comme si on donnait un nom propre, en fait, on utilisait un nom propre. Nous, c'est un qualificatif, c'est un adjectif, donc ça sonne pas pareil dans notre bouche. Mais si on appelait quelqu'un, je veux dire que je suis pas complètement au pif, Stéphane Tout-Puissant, bah, il y a eu un film, Bruce Tout-Puissant, voilà, il fallait trouver un exemple pourri. Voilà, ça nous choque, ça nous fait bizarre. Et pourtant, Dieu, on l'appelle comme ça, il est Dieu Tout-Puissant, c'est son nom en fait qui est comme ça. Donc c'est important pour nous de réagir quand on lit le texte, savoir que c'est comme ça qu'il s'appelle, parce que c'est comme ça qu'il est tout simplement. Et donc, là, il parle à Abraham. Et pourquoi il parle comme ça à Abraham? Parce qu'il est en train d'annoncer sa promesse avec lui. Et donc, c'est important, là, en l'occurrence, qu'il ne se révèle pas forcément comme l'Éternel, qui est là depuis des générations, puisque avant Abraham, ben, le peuple de Dieu n'y est pas identifié clairement, hein, mais qu'il se révèle comme celui qui est tout-puissant et qui est capable d'accomplir la promesse qu'il est en train de faire. Donc, il se révèle à Abraham, voilà, je vais faire une alliance avec toi et je suis le tout-puissant. Tu peux avoir confiance en moi. Parce que cette alliance, je vais l'accomplir, je vais aller jusqu'au bout. J'ai la puissance de le faire, en fait. Donc, vous voyez qu'il y a toujours le reprendre le contexte et pourquoi Dieu se présente comme ça. Alors, El Elyon, c'est Dieu très haut. On l'a chanté ce matin aussi. Et on le retrouve en Genèse 14, verset 18. Donc, c'est Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Donc, il était sacrificateur de El Elyon. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Donc là, il y a quelque chose d'assez mystérieux dans Melchizedek. Hein, on le connaît de nulle part. Il vient là, il disparaît. Plus jamais on le voit dans l'Ancien Testament. Il y a une mention après dans le Nouveau Testament. Mais il vient de nulle part. Mais il se révèle comme sacrificateur du Dieu très haut. Et donc là, il y a aussi tout un symbole dans son nom, en fait. Il vient du Très-Haut, en fait. Et voilà, c'est pour ça qu'il se révèle sous ce nom-là à Abraham à ce moment-là. Vous voyez qu'à un autre moment, il se révèle comme le Tout-Puissant, parce qu'il annonce la promesse. Et là, il débarque de nulle part, mais il dit, je suis le sacrificateur du Dieu qui est Très-Haut. Donc, je débarque pas de nulle part, en fait. Je débarque de tout en haut. El Olam, alors on ne connaît pas bien le mot hébreu, mais ça veut dire Dieu de l'éternité. Alors je dis on ne connaît pas bien, les linguistes le connaissent bien, c'est juste nous on ne l'entend pas, on entend facilement El Shaddai ou d'autres, hein, mais pas celui-là. Donc c'est le Dieu de l'éternité. Ça ressemble finalement à ce qu'on comprend dans les fameuses quatre lettres. Hein. On le retrouve en Genèse 21, verset 33. Abraham planta des tamarisques à Beersheba, et là il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Pas de commentaire particulier à faire sur celui-là, hein, mais on pourrait dans chaque verset chercher une signification particulière. Elkana, Dieu jaloux. Et là, il se révèle sous ce nom-là en Exode 20, verset 15. Et donc vous savez de quoi ça fait partie, hein, ces versets-là, ça fait partie des 10 lois que Dieu donne, et des 10 commandements. Donc tu ne te prosterneras point devant elle, au verset 5. Et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Donc là aussi, le contexte est important, puisqu'il donne la loi, et le but de la loi, c'est de mettre le peuple à part et de le détourner de l'idolâtrie. Il lui donne des règles de fonctionnement qui sont complètement différentes de ce qu'on peut trouver dans les autres peuples. Et il appuie ça en disant, je suis jaloux. Je suis le Dieu jaloux. Alors c'est vrai que je suis un Dieu jaloux, le un, bah c'est pareil avec le français, ça dénature un petit peu ce que Dieu veut dire au travers de tout ça. Mais il appuie sur ce nom-là parce qu'il dit voilà, je suis jaloux, tu ne dois pas te détourner à aller voir quelqu'un d'autre et c'est pour ça que je te donne cette loi. Parce que sinon tu vas aller voir quelqu'un d'autre et ma jalousie va ressortir, ma colère va ressortir. Alors, ouais, je l'ai laissé souligner dans la diapo. Je m'arrête juste 2 minutes sur ce verset-là qui est assez c'est intéressant, enfin, j'allais dire rigolo, mais c'est pas le terme, qui est curieux, parce qu'en fait, Dieu il dit, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Et en fait, l'Éternel, Yahvé, ton Dieu, Elohim, qu'on va voir juste après, je suis un Dieu jaloux, Elkana. Et en fait, dans ces 10 commandements-là, dans juste ce petit morceau souligné, on a les trois principaux noms de Dieu dans l'Ancien Testament. On a Yahvé, on a El et on a Elohim. Et El qui n'est pas tout seul, hein, je vous l'avais dit, toujours avec un petit qualificatif derrière, pour montrer que ce n'est pas le Dieu commun, le petit Dieu, en fait, le Dieu avec un petit dé. Donc, c'est intéressant parce que, alors, ok, il y a un ordre, donc les témoins de Jéhovah probablement argumenteraient sur le fait que oui, mais il met l'Éternel en premier, mais il n'y a pas de notion d'importance, il ne dit pas... Je suis l'Éternel, je suis aussi, ou on m'appelle aussi ton Dieu, on m'appelle un Dieu jaloux. Non, il met les trois et sur le même plan, en fait. Donc oui, il y a un ordre, je ne suis pas sûr qu'il faille en tirer quoi que ce soit. Dieu se révèle sous ces trois noms-là, à ce moment-là. Un petit dernier pour la route. Avec elle, hein, après on n'a pas fini. Donc elle haït, ça veut dire Dieu vivant, et on le retrouve en Josué 3, verset 10. Donc Josué dit, « À ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hétiens, les Héviens, les Phérisiens, les Guirgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. » Donc à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant, donc que El Haï est au milieu de vous. Là encore une fois, hein, le il enlève du sens en français quelque part, mais voilà, on est obligé dans nos constructions de phrases de le faire comme ça. Mais le Dieu vivant, et donc il se révèle à Josué sous ce nom-là, et c'est important parce que c'est pas le Dieu de l'époque de Moïse et puis que c'est fini en fait, c'est pas un Dieu mort. C'est pareil, le verset suivant, je l'ai gardé parce que on voit l'arche de l'alliance du Seigneur, on peut dire, bah ouais, bah Dieu, il est dans cette arche-là, c'est quelque chose, c'est juste du rituel, mais non, il dit, je suis vivant. Ok, il y a l'arche qui vient, qui est le symbole de ma présence, mais je suis vivant, il y a vraiment ma présence au milieu de vous. Il aurait pu utiliser Dieu vivant aussi pour les 10 commandements. Hein. Il aurait pu dire, je suis le Dieu vivant, parce que vous ne faites pas tout ça pour rien, vous ne faites pas tout ça face à une idole. Voilà, en tout cas, il se révèle à Josué sous ce nom-là. Alors, je vous ai déjà dit le troisième qui arrive, hein, puisqu'il y a trois noms principaux de Dieu dans l'Ancien Testament. Le troisième, c'est Elohim. Alors que nous, on confond un peu avec El, parce que c'est le même début, hein. Mais voilà, Elohim, on en a parlé la fois dernière parce que ça venait en compte dans la formulation de Jéhovah, en fait. Vous savez, il y a ce fameux tétragramme, ces quatre lettres, et que les Juifs ne prononçaient pas. Ils ne le prononçaient pas parce que c'était sacré, qu'ils avaient peur de pécher, de blasphémer, et donc ils remplaçaient. Et la moitié du temps, ils remplaçaient par Elohim, l'autre moitié, ils remplaçaient par Adonai, qu'on verra après. Donc ça, c'est l'appellation la plus ancienne de Dieu, et c'est celle qu'on retrouve dans Genèse 1. Donc c'est ça que Dieu utilise pour toute la création, en fait. Et c'est important parce que c'est ce que ça veut dire être fort ou être puissant. Alors pas être le verbe, hein, c'est un être. J'aurais presque dû le mettre avec un E majuscule, mais c'est un être fort ou un être puissant. Et ça colle vraiment bien à toute cette partie de Genèse où Dieu, il crée tout de sa propre puissance. Il n'a rien besoin. Et donc, le tout début de notre Bible, c'est Elohim, en fait. Donc, il est utilisé plus de 2300 fois. Donc, ce n'est pas le plus utilisé. Mais voilà, avec Yahvé et El, c'est quand même les trois noms qu'on retrouve le plus. Donc, il y a une curiosité qui est assez connue, normalement, chez les chrétiens. C'est que c'est un pluriel, en fait. Ça dit Dieu Elohim, dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance », en Genèse 1, verset 26. C'est pas un nous de roi, en fait, hein, même si Dieu pourrait se le permettre. C'est un nous parce que Elohim est pluriel par nature. Alors, j'y ai pensé hier en préparant, puis après, je l'ai zappé, mais il doit y avoir des mots en français comme ça qu'on peut pas mettre au singulier. Hein, ça a pas de sens. Là, c'est pareil. Elohim n'existe qu'au pluriel. Mais il veut dire être puissant. Voilà. C'est un mot assez étrange pour nous quand on le passe en français. Donc, l'homme est devenu comme l'un de nous, en Genèse 3, verset 22. C'est là encore une fois, c'est Elohim qui parle, il est devenu comme nous. Donc nous, on ne peut pas y voir autre chose que le côté pluriel de Dieu, en fait, hein, que le côté Trinité, et qui parle pour trois personnes, même s'il n'y a qu'une personne. Donc ça aussi, c'est un concept qui nous échappe, hein, partiellement. Mais voilà, dans ce mot même, il y a l'idée de plusieurs personnes. Et c'est important de voir ça dès la Genèse, et en fait, dès le tout premier verset de la Bible, c'est Elohim qui parle. Donc dès le tout premier verset de la Bible, Jésus il est prévu, le Saint-Esprit il est prévu aussi. Donc c'est pas une invention de chrétiens après coup en fait ça. Hein. C'est pas une invention des chrétiens au 2e, 3e siècle, c'est au tout premier verset de la Genèse. Dieu il est parfaitement clair. C'est pour ça que c'est super important la Genèse. Hein. Ça nous paraît un peu, des fois un peu obscur, ou c'est raconté de manière où on s'imagine pas forcément, mais ça pose les bases de manière très très claire. Et donc, la particularité d'Elohim, c'est qu'il est utilisé avec des verbes au singulier. C'est un mot pluriel, mais avec des verbes au singulier. Donc voilà, nous, ça fait une construction bizarre. Mais c'est au commencement, Genèse 1, verset 1, je dis tout premier verset de la Bible, Elohim créa les cieux et la terre. C'est pas Elohim créèrent les cieux et la terre, comme on s'y attendrait en français. Donc voilà, c'est toute cette notion des trois personnes de Dieu qui sont dans son nom. Donc vous voyez que dans ces noms de Dieu qu'on voit, on apprend énormément de choses de Dieu. Et à chaque fois, on voit qu'il utilise un nom pour un but bien précis, en fait. Et c'est aussi pour ça que se coincer sur un seul nom de Dieu, se coincer, dire Dieu c'est Jéhovah et puis c'est tout, ben on perd des aspects de Dieu, en fait. On perd une connaissance de Dieu et qu'il ne faut pas, ça n'a aucun intérêt. Alors, il y en a un dernier, on ne s'arrêterait pas, mais c'est Adonai. Donc, celui-là, il est un peu compliqué parce que vous le trouverez nulle part et vous le trouverez partout. Parce qu'en fait, il n'y a pas un verset où on voit Adonai écrit directement. C'est juste que partout où il y avait le tétragramme, on lisait Adonai, en fait, pour ne pas le prononcer. Donc finalement, on pourrait reprendre tous les versets qu'on a mis avec ce fameux Yahvé ou Yahweh, et on pourrait mettre Adonai à la place. Et c'est ce que faisaient les Juifs à l'oral, en fait. Donc à l'écrit, on n'a pas de trace précise, hein, on voit toujours ces fameuses quatre lettres, mais à l'oral, les Juifs utilisaient Adonai, ils prononçaient Adonai. Donc ça aussi, c'est un concept un peu bizarre pour nous, mais c'est comme si tous les versets ont remplacé Dieu par autre chose, quoi, par un autre nom. Nous, on le sait, voilà, on s'y habitue. Et donc, on ne prononce pas ce qu'on est en train de lire. Donc, ce que ça veut dire, c'est « mon Seigneur, mon Maître ». Ça aussi, c'est tout un aspect de Dieu hein, qu'on n'avait pas dans les autres noms, qu'on retrouve ici. Donc, on l'a déjà dit, hein, il servait de remplacement pour les fameuses quatre lettres. Et donc, on retrouve les mêmes combinaisons, on ne va pas les refaire, hein, qu'il y avait. Quand on disait « il y avait Jireh, il y avait Rapha, il y avait… » Ben, on retrouve Adonai Jireh, Adonai Rapha, Adonai Ra, et ainsi de suite. Puisque les Juifs le prononçaient comme ça, en fait. Alors, c'est pas des versets où il y a Adonai dedans, parce que je vous dis qu'on ne peut pas les trouver écrits, puis il faudrait… En fait, il faudrait lire le grec, du coup. Mais… Les versets que je vais afficher là, c'est des versets qui illustrent juste l'idée qui est derrière Adonai. Je pense que c'est important d'insister sur qui est derrière le nom, en fait. Parce qu'on est en train de voir des noms, bon, c'est bien. Mais en fait, si on s'intéresse au nom, c'est pas juste par connaissance de savoir, voilà, comme si on s'intéressait au dictionnaire, quoi. Hein. On s'intéresse à la personne qui est derrière le nom. Et c'est ça qui est important. Donc, le premier, c'est Éphésiens 1, verset 11, qui est tout petit. Mais c'est Paul qui dit... Qui lui dira, alors j'aurais dû presque prendre le contexte, hein, mais qui s'adressera à Dieu en fait, qui fera des reproches et qui lui dira « Que fais-tu ?» Et Adonai, ça traduit ça en fait. Qui pourrait aller devant Dieu et lui dire « Mais qu'est-ce que tu fais ?» et lui demander des comptes. Il a de comptes à rendre à personne. Il est souverain, il est maître, il est seigneur. Et c'est toute l'idée qui est contenue dans Adonai. Et c'est aussi pour ça que les Juifs, ils l'utilisaient en remplacement du tétragramme parce que ça donnait l'idée de l'importance. Il n'y a personne au-dessus en fait. Plus long d'Ésaïe. Donc je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. On l'a entendu ce matin aussi. Je t'ai saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Oui, je me suis arrêté là. Et la suite, en fait, alors que je ne vous ai pas mise là, mais c'était « Malheur à qui conteste avec son Créateur, vase parmi des vases de terre, l'argile, dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu ? Et ton œuvre, il n'a point de main. » Donc on voit que personne ne peut contester avec Dieu en fait. Et ce nom-là, c'est ça que ça veut dire. C'est il est bien au-dessus et personne ne peut aller lui dire quoi que ce soit. on a fait le tour des noms de Dieu dans l'Ancien Testament. Il y a juste un truc que je ne peux pas zapper, mais je veux aller vite dessus, parce que c'est pareil, ce n'est pas l'idée de faire une liste trop longue. C'est Jésus. Parce que, bien sûr. Alors, juste avant de venir à ça, je pensais à quelque chose. Si vous regardez sur Internet, c'est que Maï m'avait filé une vidéo là-dessus parce que je lui ai dit que j'étais encore sur le sujet. Vous allez trouver des textes ou des vidéos qui donnent des noms de Dieu par dizaines, en fait. Mais vous allez trouver des choses, pour moi, voilà, mon avis personnel, c'est que ce n'est pas des noms de Dieu, en fait. C'est des qualificatifs. Alors, la nuance est subtile, mais voilà, vous allez trouver, c'est un abri dans la tempête, c'est le rocher des siècles, c'est une pierre éprouvée, c'est un berger. Alors, oui, ce n'est pas faux, ça qualifie Dieu. Mais je veux dire, quelque part, je suis informaticien. Mais si vous dites, hé, l'informaticien, normalement, je ne devrais pas me retourner. D'accord? Alors peut-être que dans l'église ça va marcher parce que je suis un peu seul, mais voilà, ça me qualifie, c'est pas pour autant que c'est mon nom. Vous voyez l'idée? Et donc Dieu, on peut le qualifier d'un tas de choses, c'est pas pour autant que c'est son nom directement. Donc j'en reste au nom que je vous ai donné, hein. Yahvé, El, Elohim, Adonai, parce que ceux-là, ils se révèlent sous ces noms-là, avec des qualificatifs effectivement qui suivent, mais le reste, après, on peut en faire des listes et des listes de beaucoup de choses. Pour moi, ce n'est pas des noms, c'est des qualificatifs. Voilà. Je sais bien que la nuance est un peu limite. Mais... Donc, les noms de Jésus. Donc, lui aussi, il est appelé d'un tas de noms, et c'est encore plus compliqué de faire la différence entre ce qu'on pourrait dire nom et qualificatif. Pour être tout à fait honnête, il y a des choses que moi, j'avais mis en qualificatif, et quand je lis le verset, je dis mince, c'est difficile de faire la part des choses. Donc, Jésus, il est Yehoshua. Ça, c'est son nom hébreu qui est traduit par Jésus ou Josué, c'est la même chose. Hein. Jésus, Josué, c'est Dieu qui sauve. Ça, c'est facile. Il est le fils de Dieu, alors là, c'est pareil, hein. Est-ce qu'on peut dire que c'est un nom? Il s'est appelé fils de l'homme aussi, je ne l'ai pas mis. Il est le Christ, donc ça, c'est-à-dire loin, celui qui a été oint par Dieu, qui a été choisi par Dieu. Il est le Messie, donc le libérateur, celui qui libère. Il est Seigneur, roi d'Israël, le fils de David. Vous voyez qu'on. On décale un peu vers des choses qu'on donnerait moins comme des noms. Moi, dans mon sens strict du terme, je garderais Jésus, Christ, le Messie. Voilà, on est dans la part qui commence déjà à être un peu floue, je trouve. Et après, pour moi, c'est des qualificatifs. Mais voilà, il n'y a pas de limite. C'est pas, voilà, hein, c'est pas. Et puis ça change pas grand-chose à notre vie que ça soit un nom ou qualificatif quelque part. Hein. Et après, on trouve toute la longue liste de « Il est le pain de vie, le cep, le bon berger, la lumière du monde. » Le chemin, la vérité, la vie, l'agneau de Dieu, on peut en trouver comme ça énormément. Et on peut trouver dans l'Ancien Testament, alors c'est celui-là qui m'embête, on l'appelle admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Alors pour moi, c'était des qualificatifs. Mais le verset, il dit quoi? On l'appelle admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, la limite n'est pas très claire. Mais voilà, c'est tout ça, c'est des qualificatifs de Jésus. Après. Qu'on l'appelle directement comme ça ou pas, c'est pas super important. On en reste quand même dans l'idée que le nom veut dire quelque chose et il est utilisé pour quelque chose. Et c'est important quand on lit la Bible de réfléchir, bah tiens, là, Dieu, il s'appelle de cette manière-là dans ce verset-là, pourquoi il utilise ce nom-là? Pourquoi celui-là en particulier? Alors. Oui, donc Jésus. Moi, j'ai gardé Jésus parce que, oui, le point important aussi que j'ai pas noté, le berger, loin, le Messie, tout ça, c'est bien. Mais c'est pas tranchant, en fait. Quelque part, Jésus, c'est un nom qui pose problème. Et je pense que assez souvent, on va utiliser d'autres mots pour contourner le problème. Et le problème, c'est que si on dit le Messie aux Juifs, bah, il ne voit pas Jésus forcément comme le Messie. Donc, vous voyez, on n'entend pas la même personne derrière. Alors que Jésus, le Jésus de la Bible, hein, parce qu'il y a des Espagnols qui s'appellent Jésus, il y a plein de gens comme ça. Mais voilà, Jésus, en tout cas, c'est un nom qui est différent, en fait. Alors, on le verra une autre fois, hein, mais c'est un nom qui est clivant, qui marque une différence, et on ne peut pas se tromper. Quand on parle de Jésus, on sait qu'on est dans le Nouveau Testament, qu'on est dans la Bible, et qu'on n'est pas en train de partir sur quelque chose d'autre, sur une autre religion. Donc c'est pour ça que j'aime bien Jésus, parce que voilà, il est irremplaçable. Le reste, c'est on peut encore tourner autour, mais pas Jésus. Alors sous quel nom est-ce que nous on connaît Dieu? C'est la partie où il faut redémarrer le cerveau. Hein. Bon, il n'est peut-être pas éteint. Mais... Alors, il n'y a rien à afficher là-bas, c'est que à m'écouter. Quand on s'appelle l'un l'autre, on a des petits noms. Alors, normalement, je trahis un demi-secret, mais entre Maï et moi, c'est Mamour. Bon. C'est pas hyper original, c'est pas unique, et d'ailleurs il y a un autre couple dans l'église qui s'appelle comme ça, et c'est super perturbant. Parce que la première fois que j'ai entendu ça, je me suis retourné, et c'était pas moi qu'on appelait très visiblement. Bah mince. Ah, il y en a d'autres, hein, on entend chou, ticker, ours et d'autres. Je veux pas balancer tout le monde et je connais pas les petits noms de tout le monde. Mais est-ce que c'est notre nom? Bah, oui et non, c'est pas sur l'état civil, hein, on est d'accord. Il n'y a pas ça sur notre carte d'identité, heureusement. Enfin, heureusement, après, on ne la montre pas à tout le monde non plus, cette carte-là, mais on la montre aux autorités, alors c'est toujours un peu. Voilà. Donc, au sens de l'état civil, non. Mais dans le cadre de mon couple, c'est mon nom, en fait. C'est comme ça qu'elle m'appelle. Alors, devant les autres, elle fait gaffe, elle essaye de m'appeler Michael. Mais à la maison, si elle dit Michael. Ouais, exactement. La réaction, c'est « Oula, qu'est-ce que j'ai fait ?» Donc, vous voyez que les noms sont utilisés pour des raisons différentes et dans des contextes qui sont différents. Donc, voilà, ce nom-là, il est associé à moi dans notre couple. Et donc, c'est comme ça qu'elle m'appelle. Et dans ce sens-là, ça me représente. Donc, tous ces noms de Dieu qu'on a donnés tout à l'heure, c'est un peu la même chose en fonction des contextes. Ça parle de Dieu, en fait, et en fait, on devrait réfléchir à sous quel nom on l'appelle, nous, sous quel nom on discute avec lui. Voilà, et donc l'idée, c'est, voilà, si quelqu'un utilise le nom, ce nom-là, Mamour, en dehors de ce contexte-là, ça n'a pas du tout la même signification. Hein, je me sens, voilà, même si quelqu'un utilise ce mot-là, le fait de l'utiliser, ça crée d'office un lien, quelque chose qui est le lien de notre couple, quoi. Et donc ça, c'est, même si quelqu'un utilise ce nom-là, ça change rien pour nous, quelque part. Donc c'est important. Et donc si on revient à ces noms de Dieu, je vous dis, l'idée, c'est sous quel nom est-ce qu'on le connaît. Donc il ne s'agit pas de le connaître, si vous faites bien la comparaison avec ce que je viens de dire là, c'est pas je le connais dans ma tête, parce que bah voilà, il suffit d'en apprendre quelques-uns, on le connaît, le nom de Dieu, et puis voilà. Non, 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 non. Moi, Maï me connaît sous ce nom-là, Mamour. Donc bah sous quel nom est-ce qu'on connaît Dieu avec notre cœur? Sous quel nom on vit avec lui? Sous quel nom on discute avec lui? Est-ce qu'on le connaît vraiment comme El Shaddai? Parce qu'on le lit facilement, mais c'est-à-dire Dieu Tout-Puissant. On l'a vu tout à l'heure, il s'est révélé à Abraham sous ce nom, je suis le Tout-Puissant et je vais accomplir la promesse que je suis en train de te donner. Est-ce que nous, on le connaît réellement comme ça? Est-ce que quand le Seigneur nous fait une promesse, est-ce que quand il nous dit quelque chose, on sait qu'il a la puissance de l'accomplir? C'est ça qui est compris dans son nom. Est-ce qu'on le connaît comme El Rapha, celui qui guérit? C'est facile à connaître. Nous, on appelait Raphaël pour ce nom-là. Hein. Et c'est pas qu'on avait une maladie spécifique à guérir ou quoi que ce soit. Dans mon cœur, c'est Dieu qui guérit du péché avant tout, en fait. Mais c'est Dieu qui guérit aussi physiquement dans notre santé. Et quand on entend tous les cas de maladies qu'on a autour de nous, bah, est-ce qu'on le connaît vraiment comme El Rapha au sein de notre Église? Je pense qu'on le connaît de loin et pas d'assez près. Alors, il y a des cas de guérison. Manu parlait de son propre cas où, voilà, pour Manu, c'est certain, il connaît le Dieu qui guérit. Il l'a vécu dans son corps, il l'a vécu vraiment de manière concrète. Alors, on n'a pas tous des maladies importantes comme ça à guérir, mais on a des gens autour de nous qui en ont. Est-ce qu'on le connaît comme ça? Est-ce que quand on prie Dieu, on voit qu'il guérit effectivement? Ou est-ce qu'on sait que c'est de la théorie, mais en pratique, ben, on ne le voit pas très souvent? C'est important pour nous, hein. Alors après, il ne faut pas se focaliser là-dessus, parce que c'est un des noms de Dieu, c'est un des aspects de Dieu. Mais il n'y a pas de raison d'en négliger un, en fait. S'il n'y a pas de raison de se focaliser sur un en particulier, parce que sinon on dévie, en fait, on perd un équilibre quelque part. Parce qu'il est le Dieu saint, il est le Dieu jaloux, il est le Dieu qui guérit, il est le Dieu... On peut dresser des listes comme ça, je vous l'ai dit. Donc il ne faut pas se focaliser sur un seul point et dire, voilà, c'est Dieu qui guérit et tout le reste, je l'oublie. Mais il n'y a pas de raison non plus d'en virer un dans la liste. Il est tous ces aspects-là en même temps. Et s'il nous manque un des noms de Dieu, si on ne le connaît pas bien sous l'un de ces noms, alors il nous manque quelque chose de Dieu. On ne le connaît pas comme on le devrait. parce que tout le but de notre vie, c'est de le connaître. Et donc, si on oublie un morceau, bah, c'est dommage. Est-ce qu'on le connaît comme El Ra, le berger qui nous conduit? Est-ce qu'on voit sa direction dans nos vies? Alors, je ne dis pas qu'on tous les jours, on doit regarder, est-ce que je vois bien la direction de Dieu dans ma vie? Mais quand on regarde en arrière, on doit voir cette direction de Dieu. Quand on cherche sa direction, quand on se pose des questions sur ce qu'on doit faire pour la suite, est-ce qu'on voit la direction devant nous ou pas? Est-ce qu'il nous la transmet d'une manière ou d'une autre? J'ai toujours retenu cette manière de me faire obtenir mon concours en étant le tout dernier, ne pouvant pas choisir et de rester coincé à Lille ici. Moi, pantouflard de première, je voulais rester à Lille. Donc voilà, si j'avais à choisir, c'était facile. Mais le Seigneur a permis que je sois le dernier des derniers dans ce concours, enfin, le dernier à l'avoir au moins, c'était déjà ça, et que je n'ai pas à choisir mon poste et de me retrouver affecté à Lille, le dernier poste qui restait, dont personne ne voulait. Et bien, ça, c'est la direction claire de Dieu de « c'est bon, je valide, tu peux rester à Lille ». Ce n'est pas que tes pantoufles, c'est moi qui te dis « t'as ton boulot ici ». Alors, c'est aussi, enfin, là, c'était un cheminement déjà de longue haleine, hein. C'était il y a 12 ans, il y a 13 ans maintenant. Mais c'est un cheminement de savoir où est-ce que Dieu me veut. Et s'il m'avait envoyé ailleurs, ben, je ne serais pas là ici à prêcher, je ne serais pas là en tant qu'ancien non plus, en fait. Hein. Donc c'est une direction qui a donné à ma vie il y a des années de ça, et qui compte maintenant de manière importante. Donc est-ce qu'on le connaît comme ça dans nos vies? Alors ça c'est facile, hein, on peut tous trouver un endroit à un moment donné où Dieu il a agi, on dit « Ah mais si, Dieu il y a 40 ans il a fait ça ». Ouais, mais il y a 39, il y a 38, il y a 35, il y a 30, et on doit le voir en permanence sa direction dans nos vies. Est-ce qu'on le connaît comme Yahvé Shalom, l'éternel paix? Est-ce qu'on est dans la paix, quelles que soient les circonstances? Alors c'est facile quand il ne se passe rien. Mais quand il y a voilà, un conjoint qui est hospitalisé, quand il y a une maladie importante, quand il y a un décès, quand il y a un truc compliqué dans la vie, on n'est pas obligé d'en arriver à ces extrémités-là. Hein. Est-ce que je suis dans la paix? Est-ce que je le connais comme celui qui donne la paix? C'est facile à dire, hein, parce qu'on le connaît dans notre tête, mais pour le vivre là-dedans, ça c'est autre chose. Et la complexité, elle n'est pas de réussir à comprendre à quel point Dieu il est paix. Elle est de simplement le vivre, en fait, et de le laisser notre cœur ouvert pour qu'il se révèle à nous. Alors, on pourrait poser la question comme ça pour chacun des noms qu'on a donnés et pour tous ceux qu'on n'a pas donnés. Il y en a encore plus. Hein. Mais sous quel nom est-ce qu'on le connaît? Et je dis bien nous. Hein. J'ai essayé de vraiment faire super attention à jamais dire vous, parce que je suis tout autant concerné que vous. C'est la seule fois où je peux dire vous, en fait. C'est quand je dis je suis autant concerné que vous. Je veux juste nous encourager au travers de tous ces noms-là à connaître Dieu d'une manière plus précise, plus forte et dans toutes ses caractéristiques en fait. On y arrive au bout quand même. Hein. Du coup, j'avais largement le temps, je pensais être à la boue. Jean 17, verset 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui qui tu as envoyé, Jésus-Christ. Quand je vous dis le but de Dieu, c'est qu'on le connaisse. Lui, le Père, et Jésus-Christ. Et on les connaît au travers du Saint-Esprit. De toute façon, on ne peut pas en éviter un des trois. Hein. C'est Elohim, celui qui fait les trois en un. Donc, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Si on ne le connaît pas suffisamment, alors on a raté toute notre vie de chrétien, en fait. Et la vie éternelle, on ne l'a pas, parce que la vie éternelle, c'est le connaître. Donc on ne peut pas séparer et dire bah, « moi je suis sauvé, j'ai la vie éternelle, mais tu connais Dieu ?»« Ouais, vaguement, enfin, je sais qu'il fait ça. » Non, bah non, c'est pas possible en fait. Tout l'objectif de Dieu, c'est qu'on ait une relation avec lui. C'est pour ça aussi que je me suis permis de mettre l'image du couple en fait. C'est parce qu'on doit connaître Dieu comme on se connaît dans un couple. On doit faire plus qu'un avec Dieu. Il est en nous, on est en lui. Il y a des disciples qui ont passé 3 ans au moins avec Jésus, à le voir faire toutes sortes de miracles, à prêcher aux foules, à guérir des gens. Et dans l'eau, il y a des gens qui n'ont rien compris. Alors la plupart, hein, parce que le Saint-Esprit n'était pas là et qu'il ne pouvait pas comprendre non plus. Mais Judas, il l'a trahi. Pourtant, il a vu tout ce qui s'est fait. Même Philippe, on n'entend pas beaucoup parler, mais le problème, c'est que ce n'est pas forcément toujours pour des bonnes choses. Philippe, on le voit dans Jean 14. Vous voyez que c'est quelques chapitres avant, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, hein, puisque c'était Jean 17. Donc Jean 14, versets 6 à 9, Jésus lui dit, donc il parle aux disciples, et je crois que c'est à... Alors je ne sais plus à qui, je ne l'ai pas noté. Donc il parle à un des disciples, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Alors, vous voyez, il le connaissait, mais pas comme il fallait encore. Et Philippe, il dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Et Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ? Donc, vous voyez ce qu'il dit à Philippe, hein, Seigneur, ça c'est Philippe qui dit, et Jésus dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe ? Lui, ça faisait que 3 ans, et nous, ça fait combien de temps qu'on est dans l'Église ? Combien de temps qu'on entend parler du Seigneur ? Alors, à d'autant plus forte raison, hein, moi aussi, hein, c'est nous que j'utilise encore une fois, s'il devait se retourner vers moi et dire, mais ça fait 20 ans que tu es dans l'Église et tu ne m'as toujours pas connu, Michael. C'est dur, hein, mais voilà, il y a encore à travailler pour nous, en fait. Je veux nous encourager. Ce n'est pas mettre un poids, hein, que je veux mettre sur nos cœurs, mais c'est un défi, en fait, plutôt. De dire, voilà, il y a encore à avancer avec le Seigneur, il y a encore à le connaître mieux que ce qu'on connaît actuellement. Et c'est valable pour l'ensemble d'entre nous, anciens y compris. Hein, on ne se met pas dans un lot à part. Je pense qu'au contraire, il y a peut-être plus de responsabilité, nous, à le connaître, parce qu'on est devant et qu'on prêche. Parce qu'on est avec les gens et que si nous, on ne le connaît pas, mais c'est dramatique. C'est dramatique. Jésus demande à ses disciples, qui dit-on que je suis ? Comment est-ce qu'on m'appelle ? Ça, on retrouve en Matthieu 16, versets 13 à 17. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ? Vous voyez qu'il s'appelle lui le Fils de l'homme à cet endroit-là. Et ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Vous voyez qu'il y avait confusion autour de Jésus. Hein. Il y a plein de gens qui le voyaient. On a parlé des disciples, mais il y a tous ceux qui étaient autour. Hein. Ceux qui ont assisté à tous ces voyages, ceux qui ont assisté à ces miracles. Et ce qu'on disait de lui, bah, il y avait toutes sortes de choses. Il y avait toutes sortes de prophètes, parce que bon, il faisait des miracles. Donc quelque part, on l'identifiait comme étant quelqu'un qui ressemblait à un prophète. Mais il ne reconnaissait pas que c'était le Christ. Et même après, on voit les disciples d'Emmaüs, hein, qui discutaient et qui ne pouvaient pas le reconnaître. Et qu'est-ce qui se passe là ? Pierre, il dit, voilà, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est pas qu'il avait un cerveau plus évolué que quelqu'un d'autre, c'est pas qu'il avait plus réfléchi à la question. Jésus lui dit, ce sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est pas quelque chose qui vient de l'homme. Il dit, c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est le Père qui révèle qui est le Fils. Et le Fils, il révèle qui est le Père aussi. C'est une réciproque quelque part, mais c'est rassurant pour nous, parce qu'on n'a pas besoin d'être des gens super intelligents, au contraire, limite, ça ne va pas nous aider. On n'a pas besoin d'être des gens intelligents pour connaître Dieu d'une manière particulière. C'est Dieu qui le révèle. Et donc, ça veut dire que, finalement, la seule étape qu'on a à faire, c'est d'aller auprès de lui et de lui dire, mais révèle-toi, Seigneur. Il y a des choses que je ne connais pas de toi. Révèle-toi, montre-moi. Et il va le faire et il va se révéler. Et là, on le connaîtra dans le cœur et pas juste dans notre tête, en fait. En Luc 10, verset 21, c'est exactement la même idée. Hein. Luc 10, verset 21-22. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Et ça, c'est finalement l'un des mots les plus importants pour nous, c'est la révélation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, nous, aller le chercher. On peut faire autant d'études bibliques qu'on veut, ça va rester dans notre tête, en fait. Et le Seigneur, lui seul, il peut se révéler, le montrer dans nos cœurs. Et là, on le connaîtra réellement. Donc, je veux nous encourager, mais dis, je ne veux pas rester sur quelque chose de très doctrinal, théorique ou voilà, un dictionnaire de noms, mais je veux nous encourager à connaître Dieu avec notre cœur, en fait, juste le vivre, vivre le fait qu'il guérit, juste vivre le fait qu'il dirige, le fait qu'il est tout puissant, toutes ces choses. Je veux nous encourager à le connaître sous cette forme-là et sous chacune de ces formes-là. Et quand vous le connaîtrez, quand on le connaîtra tous sous les différents noms qu'il a donnés là, on aura fait du chemin. Il y en a encore plein d'autres en fait. On s'arrêtera jamais. On passera jamais assez de notre vie pour apprendre à le connaître. Voilà. Je vais prier. Seigneur, merci pour la multiplicité de tes noms. Seigneur, tu n'es pas comme les dieux païens qui peuvent prendre tout un tas de noms et qui sont multiformes, mais qui sont des idoles, mais tu es le Dieu vivant. Seigneur, l'unique, le seul vrai Dieu. Et Seigneur, tu te révèles à nos cœurs. Merci parce que c'est ça la grande différence par rapport à tous les faux dieux, toutes ces idoles. Seigneur, c'est que tu es vivant et que tu te révèles à nos cœurs. Tu veux une relation avec nous, comme cette relation entre Christ et l'Église, entre l'homme et la femme, Seigneur. Toute cette image-là, Seigneur, aide-nous à la vivre, Seigneur. Nous sommes des fois loin de tout ça, à te connaître juste dans nos têtes. Et Seigneur, je pense à moi en premier, Seigneur, et nous réclamons ta révélation. Seigneur, nous savons que ça ne va pas être un éclair et nous allons tout connaître d'un seul coup. Seigneur, tu le fais par moments, par des choses dans nos vies, par ta parole, par diverses choses, mais Seigneur, tu le fais progressivement aussi pour nous permettre de digérer ces choses-là, de les comprendre, de les vivre. Mais Seigneur, notre désir le plus profond, c'est de te connaître. C'est Seigneur, si pour certains nous n'avons pas ce désir-là, Seigneur, alors fais-le grandir encore, fais-le naître, Seigneur. Et Seigneur, pour ceux qui l'ont, Seigneur, fais-le grandir comme un feu qui dévore tout. Seigneur, que ça soit quelque chose qu'on ne puisse pas aller en sens inverse, Seigneur, qu'on ne puisse pas lutter, Seigneur, parce qu'il n'y a pas besoin. Et nous savons que tout ça, c'est pour notre bien, Seigneur. Ce n'est pas une question d'endoctrinement ou de quoi que ce soit. C'est une question de vivre avec toi et de te connaître. Et Seigneur, merci de la richesse de ta révélation. Et Seigneur, aide-nous vraiment à comprendre chacun de ces aspects-là. Amen.